Bonjour Martial Foucault.
Bonjour.
Vous êtes professeur à Sciences Po, vous dirigez le CEVIPO, enfin le centre de recherche politique de Sciences Po, et vous décrivez dans votre dernier livre des maires de communes au bord de la crise de nerfs, ce qui prend donc tout son sens à une semaine des élections municipales. Maires au bord de la crise de nerfs, c'est le titre de cet essai publié aux éditions de l'Aube. Ça représente un an d'enquête, un an d'études passées auprès des maires. Quel a été le point de départ de cette étude?
Le point de départ, c'est l'absence d'une connaissance profonde en France sur le, à la fois le rôle des maires et de sur ces cinq dernières années de tenir compte des évolutions assez marquantes à la fois en termes d'organisation du territoire, le rassemblement des régions, des communes qui rejoignent des intercommunalités et de comprendre que au cours de ce mandat que l'on peut, je pense, assez facilement qualifier de mandat le plus éprouvant des maires au cours de la Ve République. Éprouvant parce que, dans ce livre, je pars finalement de trois actes fondateurs. Il y a à la fois une crise économique de 2008 qui a eu des répercussions. Et on est encore dans ce cycle, répercussions budgétaires, réduction très forte des budgets, en particulier pour les petites communes. Un deuxième acte fondateur, pour moi, c'est peut-être plus symbolique, mais c'est ce moment où sur les réseaux sociaux est apparu ce hashtag, je l'oublie,
de violence, balance ton maire.
Et puis un troisième élément qui est celui de la relation très abîmée qu'ont eu les maires avec l'exécutif. Pas seulement la parole publique du président de la République ou du gouvernement, mais aussi une sorte de déliquescence d'un certain nombre de services déconcentrés de l'État qui ne sont plus forcément en mesure d'accompagner le quotidien des maires.
Eh bien, on va essayer de reprendre un petit peu un par un ces trois prismes. D'abord, les agressions dont les maires sont l'objet, agressions verbales, agressions de leur permanence aussi, et parfois agressions physiques. C'est bien un marqueur nouveau, ça?
C'est nouveau. Alors c'est nouveau dans la mesure où on est maintenant en mesure de le comptabiliser. Donc faut être très prudent. On ne connaît pas vraiment la réalité quand on n'a pas une quantification du phénomène. Ce qui est nouveau, je dirais que c'est sur la dimension physique. Oui. Alors si on s'en tient aux informations de la commission des lois du Sénat qui a interrogé les maires après la mort du maire de Signes dans le Var, on observe que c'est plus ou moins 10 à 15% des maires qui ont réellement connu à la fois des violences verbales et physiques.
À portée de baffe, comme dit le maire de Brest, d'ailleurs, dans la revue Zadig, dont le numéro 5 paraît justement en ce moment,
consacré
qui est consacré aux maires, et pour aller au plus près de la France, ces maires qui changent la France.
Oui, c'est vrai que l'expression à portée de baffe, à portée d'engueulade, aurait dit le président du Sénat, c'est un quotidien qui ne correspond pas à tous les maires. Là-dessus, je pense qu'il faut être très, très prudent. Ce que le livre essaye de montrer, c'est qu'il y a des éléments communs à tous les maires, quelle que soit la commune, la taille de la commune, qui est au fond une forme de paradoxe, c'est-à-dire que les maires exprime une forme de souffrance vis-à-vis de leur capacité à pouvoir changer le quotidien, le destin de leurs administrés. Et ça, c'est vrai dans les petites communes. Et d'ailleurs, on le voit, j'ai essayé de comprendre un petit peu les ressorts psychologiques et je suis très surpris d'observer que les maires dans les petites communes ont un sentiment de mal-être beaucoup plus fort que leurs administrés, alors que dans les très grandes villes, c'est l'inverse. Les maires sont plutôt heureux, optimistes, alors qu'ils ont des administrés qui souffrent davantage dans leur quotidien.
Juste pour terminer sur cette violence contre les maires, qu'est-ce qu'elle dit cette violence? Est-ce parce que les maires n'ont pas les moyens aujourd'hui de répondre aux doléances de leurs administrés?
C'est très contradictoire parfois, parce qu'on a à la fois des maires qui manifestent avant tout d'immenses sources de satisfaction de l'exercice de leur fonction. Ils ont le sentiment d'être très utiles socialement.
Donc ça, c'est quand même eux qui font vivre la démocratie.
Absolument, la démocratie. Puis je pense que c'est important aussi de rappeler que c'est au niveau municipal, au niveau local, que se construit la citoyenneté. Les maires sont d'une certaine manière les premiers acteurs pour construire la citoyenneté, notamment des plus jeunes.
D'ailleurs, vous le dites dans votre livre, les Français gardent confiance dans les fonctions et dans le c'est un métier ou une fonction d'ailleurs, maire?
Ça c'est un point très important, parce que dans l'enquête on pose la question. Vous savez, il y a cette catégorie sociologique que l'on doit au sociologue allemand Max Weber, qui fait la distinction vivre de la politique ou vivre pour la politique. Dans l'enquête, à peine 30% des maires, mais c'est beaucoup, déclarent exercer un métier avant d'exercer une fonction. C'est-à-dire que on voit bien, et c'est surtout dans les petites communes, et alors faut être très prudent, parce que on sait qu'il y a aujourd'hui une menace de professionnalisation de la fonction. Et on doit s'en éloigner, sinon on n'aurait plus confiance en ses représentants locaux. Donc je pense que dans les grandes villes, les maires qui ont répondu maîtrisent les codes. S'ils disent c'est un métier, on va les accuser de finalement d'être des professionnels de la politique. Mais au niveau le plus bas, effectivement, les maires vivent pour la politique. Donc ce sont des bénévoles. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, bénévoles. Et en même temps, il faut rappeler qu'un maire sur deux dans les petites communes de France ont une activité professionnelle en parallèle, un maire sur deux. Donc on voit bien la difficulté de concilier, qui est une des sources de, pour beaucoup d'entre eux, de ne pas vouloir continuer la conciliation de la vie personnelle et professionnelle.
Il faut dire aussi que la plupart des communes de France sont de relativement petites communes et que forcément, ça ne permet pas d'avoir toujours un salaire conséquent.
C'est 7,40 € brut de l'heure, non, c'est ça, pour le prix le plus bas.
Oui, si on rapporte au temps qu'il déclare temps consacré chaque semaine, on a une indemnité de l'heure qui correspond au chiffre que vous avez énoncé. Oui.
Et dans votre livre, Martial Foucault, une date pivot, c'est 2008. L'équilibre territorial entre les communes les plus petites et les grandes métropoles a été rompu au profit des mégapoles. Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est un choix de politique à la fois économique française. Je rappelle, parce que je crois qu'il est bon de se souvenir qu'au cours des 50 dernières années, on a tous connu cette immense direction qui était la DATAR, en charge de l'aménagement du territoire. Et puis d'un point de vue sémantique, vous voyez, on a abandonné le terme d'aménagement du territoire pour glisser sur des notions comme l'égalité des territoires, l'attractivité des territoires et aujourd'hui la cohésion des territoires. Mais en fait, donc ça veut dire qu'on a abandonné l'aménagement. Et pourquoi 2008 est important? Parce que jusqu'alors, il y avait un équilibre qui était assuré avec un État providence, un État aménageur qui intervenait pour assurer l'équilibre de territoire qui était en train de se déliter. Donc la commande publique, à travers l'État, a maintenu à un certain niveau, décent, l'équilibre de ces territoires. Après 2008, à la fois crise financière, crise économique, réduction des budgets, et donc le choix qui est fait, c'est un choix qui a été assumé, je crois que aujourd'hui l'exécutif est peut-être en train de réviser la poursuite de ce choix, qui est de concentrer toutes les ressources dans les métropoles.
Donc la concertation avec les collectivités locales, c'est un mythe?
Non, ce n'est pas un mythe, mais sur les grands équilibres, je crois qu'aujourd'hui on est vraiment sur la tête d'épingle. C'est-à-dire que le mouvement qui est engagé est extrêmement puissant et avec une idée qui probablement est fausse de considérer c'est l'effet de ruissellement. C'est de dire tout ce qui est concentré dans une métropole va forcément ruisseler autour, dans le périurbain, voire dans le rural.
Ça veut dire
Or,
donc
ça n'a pas marché comme cela.
Il y a donc un déclassement territorial, comme on entend depuis plusieurs mois, un déclassement social?
Oui, ça va de pair. C'est-à-dire à partir du moment où les services de l'État se retirent, on a beaucoup parlé de la souffrance ou du malaise des Français vis-à-vis de la disparition de leurs services publics de proximité. Oui, ça rejaillit dans le quotidien des maires. Et ce qui d'ailleurs, moi je suis très frappé. Je vais citer non pas un de mes derniers livres, mais Pascal Grégoire, romancier, qui vient d'écrire Monsieur le Maire. Il a une formule qui, je crois, résume assez bien, c'est-à-dire que à la fois le maire, c'est l'exutoire, il est pris entre l'exutoire de la République, c'est-à-dire qu'il doit représenter la République, et puis l'enclume du réel. Et dans cette déliquescence des territoires, oui, l'enclume des réels, elle est très forte.
Déjà des pressions budgétaires, déjà, commencer par ça.
Oui, bien sûr, pressions budgétaires. Et au fond, les maires, quand je dis, ils sont aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est pas de moi que vient cette expression, mais il y a très longtemps, dans un congrès de l'Association des maires de France, Jacques Chaban-Delmas les avait présentés comme les sentinelles de la République. Aujourd'hui, ils veulent continuer d'exercer ce rôle, mais ils se disent, on s'est engagé dans un mandat de maire sans forcément avoir toutes les compétences nécessaires pour se substituer à ce qui aujourd'hui manque dans le quotidien des maires, c'est-à-dire l'accompagnement des services déconcentrés de l'État.
Et des maires donc en mal de reconnaissance. Qu'est-il ressorti d'ailleurs du grand débat national qu'Emmanuel Macron avait organisé avec les maires en décembre 2018 en plein conflit des Gilets jaunes?
C'est très étonnant cette séquence parce que à la fois Emmanuel Macron, on se souvient tous, a essentiellement s'est impliqué et est allé dans l'arène en invitant beaucoup de maires. C'est l'essentiel des réunions publiques où il a été présent. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? C'est très difficile pour moi d'avoir un regard, exhaustif. C'est-à-dire que vous avez à la fois bien sûr une intention très très forte de remettre les maires dans le jeu de la sortie crise sociale, mais au fond, aujourd'hui, on voit que les maires n'ont pas forcément obtenu des réponses. C'est-à-dire que eux souhaitaient une chose assez simple, c'est que l'organisation du territoire se fasse avec eux. C'est-à-dire que ces décisions, qui est de supprimer la taxe d'habitation, par exemple, n'a pas été le produit d'une concertation. Et si vous voulez, on est dans un schéma en France de culture politique très centralisatrice, où on prétend, on revendique une décentralisation, mais sur un modèle très jacobin. Donc on invente un modèle de décentralisation jacobine où on doit donner plus de liberté locale et en même temps on contrôle ça très sévèrement, en particulier sur les questions budgétaires.
Et des maires qui doivent faire face à des crises, la dernière, celle du coronavirus, que ce soit des grandes villes ou des petites villes, est-ce que tout le monde est logé à même enseigne dans cette crise parmi les maires ?
Ah oui, je crois que aucun
maire. Je parle de la formation. Est-ce que les petites communes peuvent s'en sortir plus ou moins bien qu'une grosse commune équipée avec des services ?
Non, les maires seuls, quelle que soit d'ailleurs la commune, ne peuvent pas gérer cette épidémie nationale. Donc là, c'est un accompagnement, de l'ensemble des services, à la fois sanitaires et services préfectoraux, qui ne peut que permettre aux maires d'y répondre positivement.
Maire au bord de la crise d'honneur, c'est la démocratie locale qui est en question. Peut-elle survivre ? C'est le sous-titre de votre livre qui paraît aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup d'être venu en parler ce matin sur France Inter. Merci beaucoup et bonne journée. Actualité oblige, nous allons faire un point sur les mesures drastiques prises hier dans le Haut-Rhin pour lutter contre le coronavirus. France Inter, il est 8h31. Le Haut-Rhin, où le nombre de cas de coronavirus a donc été multiplié par 8 en l'espace de 48 heures. Bonjour Christophe Lannelog.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de l'Agence régionale de santé Grand Est. Les autorités du Haut-Rhin, préfecture et santé, ont donc instauré hier une sorte de stade 2 renforcé, qui donne d'ailleurs peut-être une idée de ce qui pourrait se généraliser ailleurs en France. Quoique, on va en reparler justement. Les rassemblements en milieu confiné sont interdits au-delà de 50 personnes dans le Haut-Rhin. Fermeture également des établissements scolaires. Alors on avait cru hier que ce serait d'abord une première liste d'établissements scolaires. On apprend ce matin que tous les établissements scolaires sont fermés à nouvel ordre pendant au moins 15 jours. Pourquoi est-ce que ça a été progressif d'ailleurs cette annonce des établissements scolaires ?
Le Premier ministre a décidé la fermeture des établissements scolaires au vu d'une situation qui est très évolutive. Et je crois que c'est nécessaire de s'adapter en permanence. Effectivement, on avait prévu une fermeture sélective.
Selon quels critères d'ailleurs ?
À partir des cas confirmés, c'est-à-dire que nous repérons des cas confirmés et évidemment dans le champ géographique, nous essayons de limiter très fortement la propagation du virus. Et la limitation de la propagation du virus, c'est la fermeture des écoles parce que c'est par définition les enfants qui sont les moins malades. Mais les plus porteurs du virus, parce que c'est
ils
les enfants.
Ils sont plus dangereux ?
Mais oui, parce que les enfants, ils sont en contact tout le temps avec beaucoup de gens, avec des
avec
adultes,
les grands-parents.
Avec les grands-parents. Faire la bise à sa grand-mère, c'est quand même un geste naturel pour...
On s'est pas serré la main tout à l'heure quand vous êtes arrivé, vous n'avez pas voulu.
On a checké du coude. Non, je vous dis ça sur les établissements scolaires, parce qu'on avait entendu précédemment Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, répondre à la situation italienne où effectivement ils ont tous fermé dans certaines régions les écoles, les établissements scolaires. Jean-Michel Blanquer avait dit ça, on ne le fera pas. Pourquoi on a changé d'avis entre-temps ?
Je pense, si vous voulez, que dans le Haut-Rhin et peut-être dans l'Oise ou dans Auray, on est dans une situation où vraiment le virus se propage rapidement et il faut des mesures fortes pour enrayer cette propagation.
Ça représente quoi ? 30 à 40 000 enfants ?
Alors, ça représente plusieurs dizaines de milliers d'enfants. C'est une situation où vous avez... une propagation du virus qui se fait par des contacts. Les mesures de précaution individuelle, elles sont nécessaires, elles sont absolument indispensables. C'est peut-être ces mesures-là qui sont le point de départ du recul de l'épidémie, mais elles doivent s'inscrire dans un contexte collectif. Et donc, c'est très complémentaire et, de mon point de vue, très efficace d'interdire les rassemblements, de fermer les écoles, de limiter tous les contacts avec les personnes fragiles. Par exemple, de limiter les visites dans les EHPAD, dans les hôpitaux, notamment pour les enfants. Donc c'est une manière d'amplifier les efforts que chacun d'entre nous doit faire.
Bon, parce que l'épidémie est là, et notamment dans le Haut-Rhin, elle est bien là. La prise en charge, elle doit désormais se faire selon quelle priorité ?
Alors, il y a deux priorités. Hein. Bloquer la propagation du virus avec les mesures dont on vient de parler. La deuxième priorité, c'est de prendre en charge les malades. C'est une maladie qui, pour 80-85% des gens, est sans gravité. Et pour 10 à 15% des gens, peut être beaucoup plus grave. Et notre priorité aujourd'hui, dans le Haut-Rhin, c'est d'identifier les malades en différenciant ceux qui n'ont pas des symptômes de gravité et qu'on va confiner à domicile en leur disant « signalez-nous quand ça se dégrade ». Et ceux qui ont des symptômes graves en matière respiratoire, à qui on va dire « on vous hospitalise ».
Mais ça demande aussi une organisation différente des SAMU, par exemple.
Alors, c'est effectivement la question cruciale, porte sur les centres 15, hein, parce que c'est le centre 15 qui va faire ce tri. Et nous ne pouvons pas faire autrement que de dire aux personnes « appelez le SAMU quand vous avez des symptômes. » Et c'est le SAMU qui va décider si votre symptôme vaut confinement à domicile ou si votre symptôme vaut prise en charge hospitalière.
Il y a même des étudiants en médecine qui sont réquisitionnés parce que ce sont des volontaires, mais qui vont être...
Alors, on fait un maximum. Il faut voir que à Mulhouse, le SAMU est dans une situation qui est extraordinairement difficile. On a eu 1400 appels hein, mercredi. C'est des appels qui sont compliqués à gérer parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Donc vous pouvez pas envoyer promener les gens comme ça. C'est des critères de diagnostic médical qui sont très précis, mais qui imposent une discussion, un échange.
Mais est-ce que le Haut-Rhin justement est équipé à la fois pour prendre en charge les appels téléphoniques, les différents standards 24 heures sur 24 et la gestion des lits aussi?
Alors sur le premier point, oui, on est en train de monter en régime. Hein. On a une plateforme de délestage, comme on dit, à Strasbourg, avec des étudiants en médecine. On a un numéro vert national, mais qui renvoie sur une équipe dédiée à Mulhouse. Et surtout, on va augmenter fortement les effectifs. Aujourd'hui, on a une troisième ligne, comme on dit, sur le SAMU, avec des médecins libéraux. On a fait appel à la réserve nationale. On va envoyer des personnels de l'ARS lundi. Donc, on va monter progressivement en régime, mais je vous cache pas que c'est une situation qui est incroyablement difficile.
Alors, donc vous improvisez un peu tous les jours, enfin vous naviguez à vue, je veux dire.
Il faut s'adapter, ouais, il faut monter en régime très vite. Par contre, et à la différence de beaucoup d'observateurs, moi je ne suis pas inquiet sur nos capacités hospitalières. On est dans une région avec des hôpitaux très forts, très bien équipés, avec des personnels très compétents. On a organisé un mécanisme de solidarité pour l'hôpital de Mulhouse, de façon à ce qu'il puisse faire prendre en charge des patients à Strasbourg, à Colmar, à Haguenau, etc. On suit très précisément les capacités hospitalières d'accueil et la saturation de ces capacités. Et on a, je termine, je suis désolé, une politique de maintien à domicile, de confinement à domicile, mais surtout une politique aussi de retour à domicile, après hospitalisation.
Là, c'est le stade 2 renforcé. S'il y a un stade 3, qu'y aurait-il de plus? Ça ressemblerait à quoi par rapport à ce qui existe déjà?
Je crois que c'est pas forcément des distinctions aussi marquées qu'on vient le croire. Ce qui est important, si vous voulez, c'est que progressivement, vous faites face à une épidémie massive. Et progressivement, vous engagez davantage les médecins de ville, les infirmiers, les pharmaciens. Parce que progressivement, vous avez à prendre en charge les gens à domicile et vous avez à assurer le retour le plus rapide possible après une hospitalisation en aiguë.
Eh bien, merci d'être venu le dire ici ce matin sur France Inter. Christophe Lannelogue, je rappelle que vous êtes donc le directeur général de l'Agence Régionale Santé Grand Est. Merci d'être venu nous éclairer ce matin sur France Inter. Il est 8h38.